Bonjour, Marco, compte à rebours. C'est chouette une émission de Quentin, on se relaxe, on s'installe dans le fauteuil tranquille et puis on peut même fermer les yeux si on n'est pas au volant et on écoute. Des histoires, des contes, des légendes, il y a toutes sortes de choses sur Compte à rebours. Vous pouvez même aller sur le site de CFM, la radio, et y trouver ce qu'on appelle des podcasts, c'est-à-dire des émissions enregistrées précédemment, et il y en a des centaines, puisque ça fait longtemps que cette émission existe. Et j'y suis allé hier voir, et franchement, j'en ai écouté, j'avais complètement oublié que j'avais raconté ces histoires. La dernière fois, vous en rappelez peut-être, il y avait une histoire si longue qu'il a fallu 3 émissions. C'était GM et Zéla. Allez l'écouter en podcast si vous aimez les histoires d'amour. Hein. Donc 3 émissions, une seule histoire. Aujourd'hui, voici des histoires si courtes que même un quart d'émission suffirait. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire une émission normale, mais on va diluer, délayer, traîner, digresser et tourner autour du pot tellement que ça va tout remplir. C'est ça l'art de la radio. Et oui, aujourd'hui donc, des histoires courtes, des blagues, mais pas n'importe lesquelles. Des blagues d'autrefois. Des blagues surannées, ringardes et quelque peu débiles, il faut dire. Pourquoi ce choix, me direz-vous ? Eh bien, je vous explique. Je cherchais, comme toujours, pour Compte à rebours, je lis des livres, je cherche des histoires, et là, j'avais un livre de Pierre Gripari. Vous voyez qui c'est, Pierre Gripari, peut-être ? C'est celui qui a écrit ces fameux contes de la rue Broca, et qui, dans laquelle, les contes de la rue Broca, il y a, je crois, oui, c'est ça, la sorcière du placard à balai, hein, une histoire très connue, parce qu'on l'a fait étudier à l'école. Et donc là, c'était pas ce livre, c'était un livre qui s'intitule « Du rire et de l'horreur, anatomie de la bien bonne ». Je le feuillette et j'ai été relativement surpris, pour pas dire estomaqué. La plupart des histoires sont vraiment quasiment inécoutables. Elles font plus vraiment rire. Et pourtant, ce ne sont que des blagues. C'est-à-dire, c'est censé être intemporel. L'humour. Hein? Mais bon, là, les histoires sont datées. Elles sont datées puisque ce livre a été, je pense, écrit, a été publié dans les années 80. Et donc, c'est des histoires qui viennent entre les années 60 et 80. C'est cette époque. Une époque qui fait rêver les jeunes générations. Hein? Tenez-vous bien, j'ai des amis qui font des soirées, ça c'est vrai, hein? Avec tous les tubes de Claude François. Et ils s'éclatent, hein. Moi, si j'avais pu imaginer que ce clown du showbiz que j'ai boudé toute mon adolescence et après aussi allait revenir en force 30 ans après, je sais pas, je serais parti dans un autre espace-temps, je serais pas resté ici. Enfin bon. Bref, une époque qui fait fantasmer les jeunes, mais faut dire la vérité. Hein. Nous, on s'y est plus parce qu'on avait 20 ans et qu'on a commencé à ruer dans les brancards. Mais c'était une époque puante, nauséabonde, hypocrite. C'était, l'ordre moral, hein, bien pensant, puritain, l'ordre colonial même. Jean Royer, Jacques Foccart, et tous, malheureusement, cinglés du progrès. C'est une époque où il fallait être moderne, même à gauche, hein, et même à l'extrême gauche. Hein, je me rappelle... Par exemple, d'un slogan de la Ligue communiste, qui n'est rien d'autre que l'ancêtre du NPA, qui était « Le socialisme, c'est les centrales nucléaires et l'autogestion hein. ». Pour paraphraser Lénine qui avait dit « Le socialisme, c'est l'électrification des campagnes et les soviets hein. ». Donc donc cette époque-là, tous y croyaient. Vous savez, c'est quand même l'époque où on a réussi à persuader les femmes que le lait en poudre était meilleur que l'allaitement maternel. Fallait le faire. Faut dire, c'est dire à la bêtise des médecins, et aussi l'abrutissement et l'oppression des femmes qui étaient réelles. C'est aussi l'époque où Américains et Russes jouaient à qui a la plus grosse avec les bombes atomiques. Ils en ont fait péter des milliers, hein, répandant durablement dans l'atmosphère des substances radioactives dont on mesure la trace encore aujourd'hui jusque dans les glaces du pôle. Et voilà, ils ont souillé la Terre avec leur césium, tritium et plutonium et ça va rester quelques centaines de milliers d'années. Une époque donc de merde, hein, pour résumer rapidement, je vous le dis franchement, arrêtez de rêver des années 70. Bon, mais ne nous égarons pas dans notre ressentiment anti-clo-clo. Je vous passerai pour cette émission des musiques aussi de cette époque, mais que j'ai choisi sans doute un peu plus à mon goût. Bon, il y aura Higelin, mais pas du Higelin moderne, hein, le Higelin avec Brigitte Fontaine et Areski. Il y aura un peu de Ennio Morricone, peut-être du Polnareff, c'est pas sûr. Van der Graaf Generator, je sais pas si vous vous rappelez ce groupe. Iron Butterfly, voilà. Pierre Écripari, dans son introduction, parle de l'humour et du comique. Bon, c'est pas toujours tout à fait à mon goût, mais il parle quand même de quelque chose que j'ignorais. Hein, c'est le vitz. Connaissez-vous le vitz? Alors, je vous lis tout simplement ce qu'il dit dans son avant-propos. Mais qu'est-ce que le vitz? Vitz est un mot allemand, du genre masculin, der Witz, au pluriel dit vitz, que l'on traduit généralement par « bon mot », « trait d'esprit », mais qui sert aussi à désigner les petites histoires drôles qu'on se raconte journellement, soit à l'école, soit au café, soit au bureau, soit à l'usine. Malheureusement pour nous, il n'y a pas de mots précis dans la langue française qui correspondent à cette dernière acceptation. On dit « venez ici que je vous en raconte une bien bonne » ou encore « vous ne connaissez pas la dernière ». Mais on ne saurait parler d'une anthologie de la bien bonne ou d'un recueil de dernières. Le mot histoire, évidemment sous-entendu, n'est pas assez précis. En toute bonne foi, nous devons avouer qu'il nous manque un substantif. Voilà pourquoi je n'hésite pas à l'emprunter à une langue voisine. Du point de vue littéraire, continue Pierre Gripari, le vitz est un genre important, car il constitue à lui seul toute la littérature orale restée vivante de nos jours. Les autres genres oraux, épopées, chansons populaires, contes folkloriques, ont été l'un après l'autre soit absorbés par la littérature écrite, soit proprement assassinés par la presse, la radio et la télévision. Le vitz est donc une survivance, mais encore bien vivace et toujours productive. Elle joue un rôle capital dans le monde contemporain, je dirais plus, un rôle nécessaire, vital, rôle de critique, de revanche, de compensation. Par lui s'exprime la saine méfiance, le scepticisme salubre, la sourde opposition des masses populaires à toutes les impostures, à tous les optimismes, à toutes les tyrannies. Voilà. C'est pas rien le vitz, hein, si on écoute Pierre Gripari, la seule tradition orale restée vivante de nos jours. Alors aujourd'hui, 30 ans, parce que ça a été écrit en 84, 30 ans après le vitz, est-il toujours vivant? Est-ce qu'on dit encore, tu connais la dernière? Est-ce qu'on ne dirait pas plutôt, t'as vu ce truc sur YouTube? Je te le montre. Bon, enfin, on en parlera une autre fois de l'évolution de tout cela. Mais aujourd'hui, une émission musée, des blagues d'une autre époque, racontées par un type d'une autre époque aussi, il faut bien le reconnaître. Mais beaucoup d'entre elles, de ces histoires, on les a déjà entendues, car elles ont beau être un peu surannées, elles bougent encore. Hein. Tenez, celle-là, je suis sûr que vous la connaissez, que vous l'avez déjà entendue. Chez le notaire, une dame furieuse entre. Chez le notaire, « Maître, dit-elle véhémentement, j'ai reçu votre lettre et je veux absolument tirer les choses au clair. » Et le notaire de répondre, « Pas de chance, il vient de sortir. » « Oui, vous l'aviez entendu. Il y a des histoires de curés aussi, hein, bien sûr. Mais comme c'est une espèce en voie de disparition, elles ne font plus rire autant. Et c'est pareil pour les histoires de cocus et les histoires coquines. Elles font plus rire beaucoup. Mais allez, tiens, puisque c'est une émission musée et qu'il faut faire vivre le patrimoine oral, je vais vous dire la fameuse histoire des pilules Bandol, qui dans les années 60 était première au hit parade des blagues de collégiens. Un monsieur entre dans une pharmacie. Voyez-vous, dit-il au vendeur, c'est un peu délicat. Avec ma femme, j'ai comme, qui dirait, des ratés. Des fois, ça marche bien, hein, mais des fois, ça marche moins. Et des fois, ça ne veut rien savoir. Pas un mot de plus, dit le vendeur, j'ai compris. Ce qu'il vous faut, c'est des pilules Bandol. Ah oui, ce doit être ça. Pouvez-vous m'en vendre une boîte? Ah non, ça se vend à l'unité. C'est combien l'unité? 100 francs. Diable, c'est cher. Oui, mais c'est efficace. Bon, alors, donnez-moi deux. Le pharmacien lui vend ces deux pilules. Et ajoute, pour le mode d'emploi, c'est très simple. Vous en avalez une et vous faites hep, aussitôt vous êtes en état de marche. Pour débander, ensuite vous n'avez qu'à siffler. Le client sort et avale aussitôt une pilule en se disant, je vais faire une surprise à ma femme. Cependant, comme il est en retard, il arrête un taxi. Hep ! Zut ! 100 francs de fichu. Comme ça le gêne de rester dans cet état, il siffle. La deuxième pilule, je ne l'avalerai qu'à la maison. Il rentre enfin chez lui, appelle sa femme, l'amène dans leur chambre, se déboutonne, sort son engin, absorbe la dernière pilule, puis fait hep ! Aussitôt, sa femme... Aujourd'hui, les collégiens en ont sûrement des moins gentillettes. Je passe aussi sur les histoires de paysans, hein, assez désuètes, notamment avec ces multiples histoires de suppositoires que ni le fermier ni la fermière ne savent utiliser. Et quand le docteur leur dit que c'est dans le rectum que ça se met, ils ne sont pas plus avancés. Enfin bon, celle-là, je l'ai pas. Hein. On arrive donc à la plus grosse partie, les blagues qui se moquent des étrangers. Et oui, au 19e siècle, dans nos campagnes, on racontait quantité d'histoires avec les Aveyronnais, les Gascons, les Auvergnats. Aujourd'hui, elles ne font plus rire personne. L'identité régionale s'est complètement estompée. Enfin, certains diront, oui, c'est estompé, sauf pour les Aveyronnais, ou sauf pour les Corses. Non, mais ça n'a rien à voir. Après-guerre et avec le début de l'Europe, on est dans l'époque des nations, plus que dans celle des régions. Et les blagues avec les Anglais, les Espagnols, les Belges, les Américains sont innombrables et ont un succès fou. Alors, je vous donne un modèle du genre, c'est le fameux point de vue sur l'éléphant. Un Français, un Anglais, un Allemand et un Polonais font ensemble un voyage en Afrique afin d'étudier l'éléphant. Au retour, l'Allemand écrit un gros livre, plein de jargon philosophique et de mots compliqués, qui s'intitule « L'âme de l'éléphant ». L'anglais, lui, écrit un fort volume, plein de chiffres, de graphiques, de cartes géographiques, intitulé « Le commerce de l'ivoire ». Le français, de son côté, rédige une courte conférence pleine de grâce et d'esprit sur les amours de l'éléphant. Le polonais, enfin, publie un petit volume qui a pour titre « L'éléphant et la question polonaise ».
Willkommen, bienvenue, welcome.
Oui, ça fait moins rire aujourd'hui. Les nations s'estompent aussi à l'heure de la mondialisation. Mais il y en a quand même des plus intemporelles. Par exemple, cette histoire, l'anglais tel qu'on le parle, que j'aime bien, mais malheureusement, je parle pas si bien que ça l'anglais. On va essayer quand même. Un lord anglais se baigne dans sa baignoire de luxe. À un certain moment, il pète dans l'eau du bain. Un chapelet de bulles monte à la surface avec un bruit caractéristique. 5 minutes plus tard, le domestique fait son entrée, portant sur un plateau une bouteille brune. « Voici, sœur, » dit-il. « Mais voyons, Bumble, » dit le maître, « je ne vous ai rien demandé. »« Vraiment ?» dit le domestique surpris. « Pardonnez-moi, sœur, mais j'ai bien cru entendre votre voix qui me disait distinctement « Bumble, bring me a bottle of bourbon. »«
Keep your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. »
L'histoire du papa corse. Un papa corse, donc, reçoit la visite de son fils étudiant à Paris. Au moment de repartir, le jeune garçon demande à son père, « Tu sais, papa, la vie est chère au quartier latin. Sans faire de folie, hein, il me faut bien sortir un peu, voir des amis. Peux-tu me donner un peu d'argent ?» Le père fait la grimace, mais sort quand même quelques billets et les donne à son fils en disant, « Tu sais, petit, l'argent ne se trouve pas comme ça. Essaie de ne pas le gaspiller. » « Sois tranquille, » dit le fils, « je ne le dépenserai qu'avec parcimonie et à bon escient. » Silence, très long silence. Puis le père reprend. « Écoute-moi bien, petit, avec parcimonie, d'accord, c'est un compatriote, mais à bon escient, méfie-toi des Arméniens. »
Betty und Inge. Each and every one, a word.
Le russe en Allemagne. Dans une brasserie de Berlin-Est, un soldat de l'armée rouge demande un verre de bière. On le lui sert, posé sur une rondelle de carton qui l'isole de la table. Le russe boit, puis il appelle de nouveau. Un autre. Le serveur prend le verre vide et s'aperçoit que le carton a disparu. Il apporte donc un deuxième verre de bière avec une deuxième rondelle de carton. Au bout de quelques minutes, il entend de nouveau le russe « Encore un !» Le deuxième verre est vide et le deuxième carton n'est plus là. Cette fois, le serveur agacé apporte le troisième verre seul. Mais aussitôt, le soldat russe l'interpelle. « Eh bien, et la petite galette ?» Et l'américain maintenant, l'américain est vu comme le roi des machines. Voici cette fameuse histoire du cerveau électronique qui a fait le tour de la Terre. Dans une gare, à New York, oui bien sûr, à New York, il y a un appareil à sous qui ressemble vaguement à une bascule, pèse personne, en plus gros, mais dénué de cadran, dont on se demande à quoi elle peut servir. Un citoyen monte dessus, par pure curiosité, glisse une pièce de monnaie dans la fente et voit sortir de la machine un carton imprimé portant l'inscription suivante. Vous vous appelez Johnson, vous avez 37 ans et vous vous préparez à prendre le train de 10h57 pour Philadelphie. Étonné, il descend de la machine, puis remonte et se fend d'une nouvelle pièce, nouveau carton rédigé de même. Tout cela est vrai, mais c'est peut-être qu'une coïncidence. Il avise dans la foule un superbe chef indien avec une belle coiffure de plumes. Aussitôt, il le prend, il le fait monter sur la machine et glisse un nouveau cent, une nouvelle pièce dans la fente. Le carton qui sort porte cette fois ces mots. Vous vous appelez Œil de Faucon. Vous avez 53 ans et vous vous préparez à prendre le train de 11h08 pour Los Angeles. Le citoyen demande au pot rouge « C'est vrai ça ?»« C'est vrai, » répond gravement l'Indien. Il s'en va. « Mais c'est pas possible, » pense l'Américain. « Il y a quelque chose qui cloche. Il faut absolument que je prenne en défaut cette foutue mécanique. » Il remonte sur la plateforme et envoie une nouvelle pièce. Et cette fois, le carton répond ses libellés comme suit. « Vous vous appelez toujours Johnson. Vous avez toujours 37 ans. » Mais si vous continuez à faire le con, vous allez rater le train de 10h57 pour Philadelphie. Bien, je suis surpris par le générique qui arrive si vite. Hein. Des histoires courtes, oui, mais ça remplit une émission. Mais donc, il y en aura encore hein, pour une prochaine émission. On en fera deux avec la même chose. Voilà, encore une émission de vieilles blagues comme vous les avez aimées, peut-être, éventuellement. C'était Marco, compte à rebours. Je vous dis ciao, à la semaine prochaine. Thank you.